Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'avais des préjugés terribles contre la politique. Je considérais que la politique, c'est une affaire de prostituées. Je considérais que c'est une affaire sale. Et que un homme sérieux, ne devait pas faire de la politique.
Arrivé à la présidence du conseil de gouvernement au lendemain de l'indépendance du Sénégal, Mamadou Dieng, qui s'est aussitôt lancé dans le premier projet de développement de son pays, doit très vite faire face à une forte opposition. D'abord d'une certaine classe politique qui accepte mal l'austérité, la rigueur qu'il impose. Ensuite, les confréries musulmanes à qui il fait sauter tous les privilèges dont il jouissait jusque-là. Si au début, il bénéficie du soutien de son compagnon de route, celui avec qui il a créé le parti, Léopold Sédar Senghor, avec qui il a conquis le pouvoir, qui occupe la fonction de président de la République au début de cette année 1962, le climat n'est plus exactement le même. Le lien entre les deux compagnons politiques semble se distendre sous la pression des amis du président qui l'ont finalement convaincu de la nécessité de changer de régime, de le modifier afin qu'il puisse enfin jouir de l'essentiel des pouvoirs que ne lui confère pas vraiment la constitution bicéphale instaurée au lendemain de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Si Léopold Sédar Senghor veut enfin jouir de l'intégralité des pouvoirs, il doit d'abord se débarrasser de Mamadou Dia. Et cela, ses adversaires, ses détracteurs l'ont bien compris. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mamadou Dia. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal.
Nous étions le seul pays parmi les anciennes colonies en Afrique, au sud du Sahara en tout cas, à avoir ce régime parlementaire. Les autres avaient un régime présidentiel. Je pense que ça a pu jouer un rôle. Parce que le président du conseil avait beaucoup de pouvoir. Le président de la République n'en était pas dépourvu non plus. Ce qui explique d'ailleurs quelques ambiguïtés et quelques malentendus. Mamadou Dia avait le titre de chef de gouvernement, mais il avait un gouvernement qui définissait et conduisait la politique de la nation. Donc le président du conseil des ministres avait beaucoup plus de pouvoir qu'un premier ministre d'un régime présidentiel déconcentré. Et donc forcément, il y avait une sorte de réel bicéphalisme à la tête de l'État.
17 décembre 1962. La capitale sénégalaise est le théâtre d'une agitation un peu particulière. Les députés, qui s'apprêtaient à voter une motion de censure pour renverser le président du conseil de gouvernement, n'ont pas pu accéder à l'Assemblée nationale. Ils ont été chassés par la gendarmerie sur ordre de Mamadou Dia, qui estime que leur motion n'est pas recevable tant qu'elle n'a pas été discutée et validée au sein du parti. Le parti unique, l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise. Amadou Maktar Bo, écrivain et ancien ministre du gouvernement de Mamadou Dia.
En tout cas, la règle, c'était que le parti devait se réunir pour prendre des décisions avant que les instances législatives ou gouvernementales ne se réunissent. C'est une règle qu'ils avaient acceptée tous, et c'est sur cette base de cette règle que Senghor a été élu président de la République.
La stratégie de Mamadou Dia, en bloquant les députés, était de geler les termes de la motion jusqu'au 20 décembre 1962, date donc de la rencontre du Conseil national du mouvement. Il donne également l'ordre de procéder à l'interpellation de 4 députés qui sont les meneurs de cette fronde. Il les accuse de troubles à l'ordre public. Il s'agit d'Abdoulaye Fofana, Maguette Ousmane Gom, et Moustapha Cissé. Ce qu'ignore Mamadou Dia à cet instant-là, c'est qu'il n'est pas soutenu dans sa démarche par le président de la République, chez qui il a également envoyé un détachement pour protéger le palais de toute agitation pouvant survenir. Chez Kamidou Kane, écrivain et ministre du gouvernement à cette époque-là.
Un matin, je crois que c'était le 13 décembre, je vais voir Senghor. Il me dit, voilà, il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau pour déposer une motion de censure contre Mamadou Dia. Je ne suis pas d'accord avec ces députés du tout. La politique que Mamadou Dia mène, c'est notre politique. Quand Senghor m'a dit ça, j'ai eu mes doutes. Je me suis dit, mais Il suffit que Senghor dise à ces gens dont il dit qu'ils sont en train de réunir des signatures sous le manteau, il suffit qu'il leur dise arrêtez pour qu'ils arrêtent. Je lui ai posé une question à Mamadou Dia. Je lui ai dit, mais écoutez, président, supposez que malgré tout, les gens finissent par réunir une majorité de signatures contre vous, qu'allez-vous faire? Il dit, je m'y opposerai. Alors je lui ai dit, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de le faire. Il me dit, si, priorité du parti. Je lui ai dit, mais ça, ce n'est pas dans notre constitution. Vous n'avez pas le droit de faire. Il me dit, si, un tel m'ont dit que j'avais le droit de le faire, etc. Babacar Ba et moi, ce soir-là, nous avons essayé de le convaincre de ne pas du tout s'opposer à ça par la violence. Mais ça, c'est un des défauts de Mamadou Dia.
Roland Collin, directeur du cabinet de Mamadou Dia.
Le 9 novembre, avant les événements de 62, j'ai passé 2 heures en tête à tête avec Mamadou Dia. Il m'a expliqué vraiment, cœur à cœur, tout ce qu'il pensait. Et il me disait cela. Si Senghor tient les promesses qui se sont nouées entre nous, on passera le cap. Sinon, ce sera une épreuve terrifiante.
Pour Mamadou Dia, ce jour-là, à cet instant précis, il est certain que Senghor sait qu'il ne menace pas son pouvoir. Mamadou Dia.
J'étais prêt à me retirer et même à lui faciliter les choses, puisque je me chargeais moi-même de défendre, si c'était la question du régime, de défendre le régime présidentiel devant le parti et devant le pays si c'était nécessaire.
Léopold Sédar Senghor.
Quand j'ai surmonté la tentative de coup d'État du 17 décembre 1962, j'ai été réveillé à 5h du matin, on m'a dit qu'il y avait une délégation des officiers de l'armée nationale. Je suis descendu avec ma constitution. Et j'ai expliqué aux officiers la constitution sénégalaise pendant 1 heure en faisant appel à leur sens de l'honneur. Et c'est une vertu très sénégalaise.
En réalité, dans une logique de rapport de force, et compte tenu de la tension qui régnait à Dakar après la décision des députés de déposer cette motion de censure, le camp présidentiel avait pris des dispositions sécuritaires depuis quelques jours. Avant même que Mamadou Dia ait décidé de faire évacuer l'Assemblée, le capitaine Pereira avait reçu l'ordre de la présidence de la République de marcher sur Dakar et va donc très discrètement se substituer à l'unité assurant la garde du palais présidentiel, puis libérer les 4 députés détenus au commissariat central. Il va également obtenir le repli du cordon de gendarmerie qui interdisait l'entrée de l'Assemblée nationale. Tout cela dans le calme. Mamadou Dia, de son côté, n'imagine pas l'ampleur de la mobilisation. En interdisant l'entrée de l'Assemblée nationale aux députés, il ne se doutait pas des conséquences qu'elle allait provoquer. Après avoir été repoussés alors qu'ils essayaient de se rendre à l'Assemblée nationale, les députés vont très vite s'organiser. Et les choses vont se précipiter. Lamine Gueye, le président de l'Assemblée nationale, va obtenir du président de la République l'autorisation de siéger hors du palais de l'Assemblée. Les députés, déterminés à en finir avec Mamadou Dia, ils sont 47, vont se retrouver chez lui, à la maison, boulevard de la République. Lamine Gueye, président de l'Assemblée nationale.
Nous étions à l'Assemblée nationale à cette heure-là, lorsque des éléments de gendarmerie sont venus, certains députés avaient été expulsés et quelques-uns même arrêtés. Et j'ai mis le président de la République au courant de la situation.
Et c'est pourquoi vous avez été siégé à votre domicile?
Alors nous avons siégé à mon domicile. C'est là que nous avons voté la motion de censure par 47 voix.
Les députés ainsi réunis au domicile de Lamine Gueye vont voter la motion de censure qui destitue le président du Conseil de gouvernement, Mamadou Dia.
C'est une réunion absolument illégale que Senghor a entériné comme président de la République, gardien de la Constitution. C'est en violation de la Constitution qu'il a entériné cette réunion-là. Ce n'était pas du tout un coup d'État. Et on avait convoqué le Conseil national du parti sous la présidence de Senghor lui-même, chef d'État et secrétaire général du parti. Il s'est dissocié du parti pour aller rejoindre le mouvement des députés frondeurs qui était en rébellion contre le parti. C'est ça la vérité.
À partir de ce moment, les choses se précipitent. C'est l'épreuve de force.
À 11h, des éléments de la gendarmerie et de la police armée viennent occuper l'immeuble de la radiodiffusion. À 13h45, l'ex-ministre de l'Information, M. Alioune-Tall, fait alors une déclaration sur la gravité des événements et annonçant pour 20h une importante déclaration de M. Mamadou Dia. À 15h45, la radiodiffusion est toujours aux mains des forces de gendarmerie. Puis brusquement, à 16h, les parachutistes sénégalais font irruption dans l'immeuble de la radio. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Lamine Diakaté, convoque alors le personnel qui manifeste bruyamment sa sympathie pour le président Léopold Sédar Senghor. La situation est donc renversée. À 18h, alors que la cause semble être gagnée, des éléments fidèles à l'ex-président du Conseil, aidés par la gendarmerie, réoccupent les locaux de la radio et mes collègues journalistes et le directeur du service technique sont donc prisonniers. À 19h45, avertis de la situation, messieurs Lamine Diakaté et Gabriel Darboussier, escortés de paras, armés, pénètrent à leur tour à la radio et essaient de parlementer avec les gardes mobiles. C'est alors que le message du chef de l'État est en partie diffusé. Réaction des éléments fidèles à Mamadou Dia qui arrivent au studio dans la salle technique et qui tronquent la déclaration du chef de l'État. Après quelques minutes d'interruption, ils diffusent celle de l'ex-président du Conseil. Une minute après, la haute tension est coupée et la radio n'émettra plus jusqu'au lendemain matin, les émetteurs étant gardés par les parachutistes fidèles au président Senghor. À 22h30, le directeur de l'information et son adjoint intiment l'ordre à un technicien européen de saboter les installations. Celui-ci refuse. À 23h30, le colonel Diallo, rallié à la cause du président Senghor, parlemente avec l'ex-général Fall, chef d'état-major général de l'armée, destitué de ses fonctions. À 2h30 ce matin, les forces de gendarmerie se rallient enfin aux forces de l'ordre. À 5h, une équipe de la rédaction, protégée par des paras, se rend à Rufisque, au centre émetteur, où a lieu la première émission d'information et d'où l'on peut diffuser alors intégralement le message du président de la République. À 8h, le nettoyage était fait à l'intérieur de l'immeuble de la radiodiffusion et toute la matinée, nous avons pu diffuser enfin les informations consacrées à ces événements. À l'heure où je vous parle, une foule évaluée à plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de Médina et de l'intérieur du pays, cette foule est massée devant le palais de la présidence pour manifester son loyalisme au chef de l'État qui va s'adresser à elle. Ainsi s'est exprimé en wolof le président Léopold Sédar Senghor. Après la nuit la plus longue, celle du 19 août 1960, le jour le plus long au Sénégal, le 17 décembre, aura été une apothéose pour le président de la République, Léopold Sédar Senghor. La foule s'achemine lentement, maintenant vers l'Assemblée nationale où se tient une nouvelle séance. Le nouveau gouvernement va être formé dans quelques heures.
C'est 18 décembre au matin donc. Le président du Conseil Mamadou Dia renversé, les députés peuvent alors se rendre en toute liberté et dans le calme à l'Assemblée nationale pour voter cette fois-ci la modification de la Constitution telle qu'ils le souhaitaient.
Il y a eu ce matin à 11h une séance de l'Assemblée nationale qui a pu siéger cette fois en toute liberté et non pas comme hier où le président Lamine Gueye et les députés furent chassés par les gardes républicains fidèles pour quelques heures encore à l'ex-président Dia. Une foule considérable s'était massée aux abords de l'Assemblée où les 54 députés présents ont voté à l'unanimité l'article unique portant modification de la Constitution sénégalaise.
Par dérogation aux articles 25, 53, 66 de la Constitution fixant les pouvoirs et les attributions du président du Conseil, le chef de l'État devient chef de l'exécutif. Deuxièmement, il faut soumettre au référendum un projet de révision constitutionnelle après avis du président de l'Assemblée nationale, du Conseil des ministres et d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale.
L'exécutif bicéphale est impossible.
À partir de cet instant, le président Léopold Sédar Senghor détient désormais tous les pouvoirs. On est dès lors, comme il le souhaitait depuis quelque temps, dans un régime présidentiel. Mamadou Dia a perdu la bataille.
Ce matin, l'ex-président du Conseil a tenu un meeting devant sa résidence de Médina, mais il fut peu suivi. Cette résidence de Médina est maintenant cernée par trois compagnies de parachutistes et le commissaire à la justice, M. Gabriel Darboussier, vient d'annoncer que les réquisitions ont été lancées contre M. Mamadou Dia et trois de ses ministres, Valdio Ndiaye, ex-ministre de l'Intérieur et des Finances, Joseph Mbaye, économie rurale, et Ibrahim Assar, fonction publique. Leurs arrestations sont imminentes, mais il faudra faire vite.
Effectivement, les nouvelles autorités vont faire vite, puisque dans l'après-midi même, le capitaine Parera et ses paracommandos, sur ordre du chef de l'État, vont venir chercher Mamadou Dia dans sa résidence de la Médina avec ses ministres cités. C'est le début de la descente aux enfers pour Mamadou Dia.
Nous avons été arrêtés donc dans les conditions, n'est-ce pas, que vous savez, de façon illégale. Ça a donné lieu d'ailleurs à travers le pays à des manifestations. Lorsque on a montré au cinéma les images, il y a eu des manifestations de sympathie. À travers le monde également, je crois que les démocrates, partout, il y a eu des démocrates quand même qui se sont révoltés et qui ont envoyé au président de la République des télégrammes et des messages de soutien à Mamadou Dia et à ses amis.
Cheikh Hamidou Kan, écrivain et ministre à cette période-là.
Je prends ma voiture pour aller voir Senghor. Il se lève, vient vers moi, enlève ses lunettes et se met à essuyer des larmes sur son visage. Il me dit, tu vois, cher, hein, Mamadou Dia, un ami de 17 ans. Je l'ai arrêté parce que sinon c'est lui qui m'aurait arrêté. Alors je lui dis, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que Mamadou Dia voulait vous arrêter.
Mamadou Dia, accusé de putsch, que Radio Mali, qui lui voue une haine viscérale en raison de son rôle dans l'éclatement de l'éphémère Fédération du Mali, annonce en fuite, est incarcéré avec ses amis dans un premier temps à Bakel, dans les nouvelles habitations qu'il venait de faire construire pour les fonctionnaires. Roland Collin, directeur de cabinet de Mamadou Dia.
Drôle de putsch, permettez-moi. Drôle de putsch pour un putschiste qui, lorsque l'événement déclencheur se produit, eh bien, il se retire dans sa maison, sans aucune force de protection, et il dit, attendons que le Conseil national se réunisse. Parce qu'il pensait, enfin, il avait toujours demandé que le Conseil national se réunisse, et même après ce blocage des députés, il était tout à fait prêt à démissionner si le Conseil national du parti ne lui donnait pas raison. Et on est venu le cueillir dans sa maison, effectivement, parce que Senghor avait, lui, préparé des forces militaires. Et il les avait même mises en marche avant même que Mamadou Dia prenne quelques décisions que ce soit. Alors, le procès l'a montré.
Donc il ne s'est pas contenté de garder le silence, il agissait.
Mais bien sûr, il agissait. Et d'ailleurs, un certain nombre des membres de l'équipe de Senghor, y compris de son cabinet, m'en ont fait la confidence à moi, personnellement, après, en disant « nous avions tout préparé, et de toute façon, l'armée française était là pour parer à toute éventualité et faire que, quoi qu'il arrive, Senghor puisse sortir son épingle du jeu. »
Quelques temps après, les camarades d'infortune de Mamadou Dia, avec qui il est incarcéré, sont dispersés à l'intérieur du Sénégal et lui va rester sur place, tout seul. Mamadou Dia.
Tout cela me paraissait tellement bizarre, tellement extraordinaire, tellement inattendu. J'étais comme dans un rêve, je disais, enfin quoi, est-ce que c'est vraiment un procès? Est-ce que c'est Senghor qui me met en procès? Je n'arrivais pas à réaliser.
La date du procès est fixé au mardi 9 mai 1963. Il se déroule au palais de justice du Cap Manuel, Mamadou Dia.
On nous accusait d'avoir perpétré un coup d'État contre quoi, crime contre la Constitution. Un crime contre la Constitution, c'est d'avoir, comme vous le dites, fermé l'Assemblée, arrêté les députés, c'est ça.
Ce procès passionné qui s'ouvre va durer jusqu'au 13 mai. Avec Roland Collin, parfois comme vous l'écrivez dans votre livre « Sénégal, notre pirogue », une organisation très orientée, un simulacre de procès en somme.
D'autant plus simulacre que le procureur, les membres de la cour étaient des députés choisis par l'Assemblée nationale, c'est une autre cour de justice spéciale. Et dans ces députés qui étaient membres de la cour, il y avait les ennemis de Mamadou Dia.
Ceux qui avaient ourdi le complot.
Mais tout à fait, ils étaient là. Alors, le procureur par contre était un magistrat, un haut magistrat. Et le procureur, en bon juriste, décortique les éléments du dossier et, reconnaît en audience publique que Mamadou Dia mérite les circonstances atténuantes. Et on n'en tient aucun compte et on le condamne à la prison perpétuelle.
Quel est le sort que lui réserve la justice sénégalaise? Léopold Sédar Senghor va-t-il intervenir pour mettre un terme à cette escalade? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après. À très vite.
Les archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il
un intellectuel, n'est-ce pas, de cette envergure-là, qui vient échouer dans la politique. J'ai dit, ça, c'est du gâchis.
Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. D'autant que lorsque, quand il y a eu également cette fameuse crise, pour se plaigner d'un certain nombre de mes ministres, c'était le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information de l'époque, Robert Diop, un autre ministre, José Mbaye, j'ai échangé les ministres, j'ai dit maintenant, je peux même aller plus loin si tu veux. Je suis prêt à m'effacer, à faire campagne à travers le pays pour un régime présidentiel. Il m'a dit pas question. 7-8 mois après, il me prête cette intention-là à moi de venir lui faire un coup d'État. Je n'ai pas compris ça.
Après avoir occupé l'une des plus hautes fonctions de la jeune nation sénégalaise, qui vient d'accéder à l'indépendance en 1960, Mamadou Dia est renversé par une motion de censure le 17 décembre 1962. Et pour avoir donné l'ordre à la gendarmerie nationale de bloquer l'entrée du Parlement aux députés qui s'y rendaient pour le vote de la dite motion, pour avoir fait interpeller 4 de ses représentants pour trouble à l'ordre public, Mamadou Dia est accusé de tentative de putsch. Jugé en 1963, condamné à la prison perpétuelle.
Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Aliou Ntal, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droit civique. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. Ainsi, le rideau tombe sur un procès, peut-être moins celui d'un homme de parti que celui d'un système. Un procès entre la Constitution et la primauté du parti. Dans son réquisitoire nuancé d'une grande modération, le procureur général, M. Ousmane Camara, avait dit hier, entre ce que Mamadou Dia croyait légal en se basant sur la suprématie du parti et ce qu'est la loi, il y avait un procès. Aujourd'hui, dans l'histoire du Sénégal, la légalité l'a emporté en toute justice sur la primauté du parti. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal.
Mamadou Dia est incarcéré avec ses ministres dans les confins du Sénégal oriental à Kédougou, zone aride à la frontière entre le Mali et la Guinée, éloigné de tout. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mamadou Dia. Mamadou Dia.
Il a d'ailleurs été poussé, je dois le dire, par les assistants militaires français qui m'en voulaient aussi. Je venais de prendre des dispositions d'accord avec le gouvernement français pour mettre fin au service des assistants techniques militaires français au Sénégal.
Moustapha Niass, ancien ministre sénégalais.
Senghor était le dirigeant régulier et Mamadou Dia était le dirigeant séculier, pour utiliser des termes ecclésiastiques. Senghor, c'était l'homme du monastère qui donc chantait les chants grégoriens, exaltait la qualité de la relation qui doit exister entre le croyant et Dieu. C'est le moine qui est dans le monastère et qui sort rarement, mais qui réfléchit, crée des concepts, définit les bases d'une philosophie et prolonge tout cela par une réflexion qu'il partage avec les autres. Dia était lui le séculier, c'est-à-dire le prêtre qui va de paroisse en paroisse avec une bouteille de lait, un peu de fromage, quelques médicaments, qui va visiter les malades et qui va rendre visite aux personnes nécessiteuses, à celles qui sont prises par l'angoisse. Donc Senghor était un penseur sans que Dia cesse d'être un penseur, et Dia était un acteur politique qui en même temps alliait la pensée et l'action. Donc on aurait pu dire, utilisant un barbarisme, que Mamadou Dia était le développeur de l'économie sénégalaise. Dans ses dimensions théoriques, pratiques, programmatiques et méthodologiques. Senghor était resté le poète, l'écrivain, l'un des chantres de la négritude avec Césaire et Damas, et il se complétait, lui et Dia. Donc on aurait pu dire que Senghor incarnait la nation, et Dia incarnait l'État.
Cheikh Hamidou Kane, écrivain, ancien ministre dans le gouvernement de Mamadou Dia.
Quelques jours après le procès se termine, Amadou Dia est condamné de façon aussi sévère. J'ai écrit une lettre de démission.
Abdou Diouf, ancien gouverneur de Salom, ancien président du Sénégal.
On nous a même demandé à tous les gouverneurs de signer un acte d'allégeance personnelle à Senghor, ce que j'ai refusé. Et au conseil des ministres où on m'a relevé, il paraît qu'il y a certains ministres qui ont dit oui, mais il faut l'enlever parce que c'est un djihadiste.
Mamadou Dia.
Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même. Et en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, après que nous étions si bien partis, nous étions un exemple. Tu aurais pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.
Docteur Diallo Diop Blondin, co-détenu de Mamadou Dia.
C'était un régime de réclusion absolue, où aucune communication n'était possible entre eux. Nous, le groupe dit des incendiaires, quand nous y sommes arrivés, nous avons dû faire une grève, deux grèves de la faim, dont une de 23 jours, pour imposer qu'on mette fin à notre réclusion et qu'on nous donne la possibilité de nous voir.
Mamadou Dia.
On a conçu ma tombe sous mes yeux. Comme j'étais condamné à vie. Alors, je voyais des gens qui s'activaient, là, à côté. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? J'ai fait venir le régisseur. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire comme ça? Vous êtes en train de me construire ma tombe. Je lui dis, mais savez-vous si c'est vous qui allez m'enterrer ou moi?
L'ancien président du conseil de gouvernement du Sénégal, Mamadou Dia, qui a trouvé dans la prison un endroit propice pour la spiritualité, pour la méditation, qui voit dans son malheur, dans sa chute, dans son incarcération, la volonté de Dieu, qui veut éprouver sa foi musulmane, souffre malheureusement des yeux, un glaucome aigu. Mais il n'obtient pas l'autorisation du président Léopold Sédar Senghor de venir se soigner dans un hôpital de Dakar. Roland Collin, ancien directeur de cabinet de Mamadou Dia.
Grosse responsabilité, si vous voulez. Pas cruelle. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de contradictions. Ça n'enlève rien à l'estime que j'ai pour Senghor et tout ce qu'il a apporté par la négritude. Mais je dis, cet homme était déchiré. Or, en fait, Mamadou Dia, au moment où il a été mis en prison, avait un début de glaucome, maladie oculaire, qui est sérieuse. Et pendant 8 ans, il n'a pas pu voir de spécialiste. Il est resté enfermé sans avoir un véritable traitement. Et au bout de 8 ans, sans un traitement approprié, la vue est compromise et perdue. Et voilà la raison pour laquelle il a perdu la vue.
Mais est-ce qu'il était au courant, le président Senghor, qu'il souffrait de ce mal?
Alors,
on aurait pu, par exemple, dépêcher un médecin.
Il n'est pire sourd que qui ne veut entendre. Et je crois que, effectivement, Senghor se protégeait derrière une vision idyllique. Bien sûr, il n'est jamais allé à Kédougou. Quand le professeur Pérou a écrit à Senghor pour lui dire « Mamadou Dia souffre en prison », Senghor lui a répondu « Mais non, il est dans une petite maison à l'intérieur d'un camp militaire et cette maison est climatisée ». Bon, alors que, bien entendu, la réalité est totalement différente.
Mais il était conscient de la réalité, qu'elle était différente de celle qu'il annonçait.
Alors là, c'est un mystère. Mais probablement, il n'a pas cherché vraiment à savoir. Parce qu'effectivement, ça aurait probablement traîné trop loin. Et puis, il y avait des personnages, disons, peut-être un peu moins clairs. Mon homonyme Jean Collin, qui était ministre de l'Intérieur, qui était le grand maître des prisons, à qui j'ai eu affaire, d'ailleurs, au moment de la négociation avec Mamadou Dia, et qui avait pris ça assez mal. Mais enfin, bon, on est passé outre parce que j'avais l'aval personnel personnel et complet de Senghor. Donc il y a eu tout ça, vous voyez, qui ont joué. Mais Mamadou Dia aurait pu très bien mourir en prison. Ce qui aurait pu aussi être une manière de régler le problème aux yeux de ses pires ennemis.
Même si ses pires ennemis exultent justement, ils sont quelques-uns, des amis, des proches, qui entreprennent une démarche auprès du président Senghor, qui est jusque-là resté sourd aux pressions venues de toutes parts pour obtenir sa libération. Roland Collin, vous faites justement partie de ceux qui négociaient en secret, dans la plus grande discrétion. On a souvent dit que le président Senghor avait accepté le principe, mais exigeait qu'à sa sortie, il ne fasse plus jamais de la politique. Était-ce une rumeur ?
Ça fait partie de l'histoire de la négociation que je révèle pour la première fois dans ce livre « Sénégal, notre pirogue ». Senghor m'avait proposé de rentrer au Sénégal, parce que j'étais tombé malade peu avant les événements proprement dits. Senghor me fait appeler... Après le jugement de Mamadou Dia, il me demande de revenir. Je dis non, je ne remettrai pas les pieds au Sénégal tant que Mamadou Dia sera en prison. Senghor n'était pas très content. Pendant 5 ans, je n'ai pas remis les pieds au Sénégal. Et puis au bout de 5 ans, je retourne au Sénégal parce qu'il y avait un congrès des africanistes, tout ça qui était un congrès international. Et à cette occasion, disons, Senghor fait en sorte que je suis contraint de le revoir. Je vais le voir et je dis à Senghor, bon, je reviens au Sénégal, mais je voudrais que mon retour ne soit pas mal interprété. Ou bien, je suis ici, on peut parler des choses que j'ai à cœur et que peut-être vous avez aussi à cœur, mais à ce moment-là, dispensez-moi du protocole. Ou bien on ne reste que sur le plan protocolaire et à ce moment-là, je rentrerai à Paris. Alors non, il m'a dit, il n'y a pas de protocole entre nous, vous êtes mon ami et tout ça. Et j'ai mis tout sur table à Senghor. Je lui ai dit, voilà, vous étiez un tandem miraculeux, tous les deux, tellement complémentaires. Bon, maintenant, comment faire que les choses puissent se retrouver entre vous ? Alors, il me dit, vous comprenez, mais c'est Valdiodio Ndiaye que je crains. Ndiaye est honnête, sûrement, mais Valdiodio va chercher à m'abattre, etc. Bon, on discute. Je dis à Senghor, vous dites que Mamadou Dia est honnête, que Valdiodio ne l'est pas. Donc, vous maintenez l'homme honnête en prison parce que vous avez peur de celui qui ne l'est pas.
Car malgré l'indifférence du président Senghor aux nombreuses interventions et pressions internationales pour qu'il libère Mamadou Dia, ils sont quelques-uns à poursuivre leurs négociations. Roland Collin, vous faites partie de ceux-là. C'est d'ailleurs vous qui l'envoie en mai 1972 voir son ancien ami en prison à Kédougou pour lui proposer un marché.
Il me dit, vous allez rencontrer secrètement Mamadou Dia en prison et vous allez lui dire de ma part que je le lâcherai tout de suite s'il prend l'engagement de ne pas faire de politique.
Et comment il réagit lorsque vous le lui apprenez ?
Mamadou Dia ?
Oui.
Mamadou Dia réagit de la manière suivante. D'ailleurs, j'avais tout à fait anticipé ça. J'avais dit à Senghor. Il a écrit à Senghor dans ce message que j'ai ensuite transmis à Senghor. Mamadou Dia lui a dit, pour moi, la politique, avant d'être un droit, c'est un devoir. C'est le devoir de tout citoyen, disons, de participer à l'aventure collective de ses frères. On peut renoncer à un droit, on ne peut pas renoncer à un devoir. Donc, je ne peux pas renoncer à ce devoir-là. Et puis, alors, il disait aussi, mais maintenant, bien sûr, comme un simple citoyen, je n'ai aucune ambition, disons, d'enfreindre la loi, ni de m'accaparer le pouvoir. Je demande simplement à être un citoyen parmi les autres, pas plus. Et ce message, l'entretien que j'ai eu avec Mamadou Dia au fond d'une prison bien discrète et secrète, se terminait par une formule qui était magnifique. Mamadou Dia me dit, il faut dire à Senghor que moi, finalement, je préfère vivre libre en prison que d'être prisonnier dehors.
Une telle réponse ne pouvait qu'irriter le président Léopold Sédar Senghor, qui s'est aussitôt refermé à toute négociation.
Il était vraiment... Alors, j'ai revu Senghor après, parce que j'ai fait remettre ce message à Senghor. Il était furieux dans un premier temps, pas contre moi, mais contre Dia, parce que ça ravivait toutes les arêtes de sa mauvaise conscience, si je puis dire. Bon, il était furieux, il me dit, oui, bon, maintenant, Mamadou Dia a toujours cette mauvaise tête qu'on lui connaît, ça. Je dis, non, il a une volonté, au contraire, même de réconciliation. C'est un message de paix que je vous apporte, et non pas un message de guerre. Bon, alors il me dit, il sortira quand j'aurai décidé qu'il sorte.
Mais les choses ne vont pas en rester là. Puisqu'après un moment de silence, il est ramené en 1974 à Dakar, alors que sa crise aiguë de glaucome, sa maladie des yeux, s'aggrave. Abdou Diouf, ancien Premier ministre et ancien président du Sénégal.
Il faut savoir que Senghor a mis beaucoup de temps à être convaincu de libérer Mamadou Dia. Il faut le savoir. Il a fallu l'intervention de beaucoup de personnes avec insistance. Ils disaient, oui, mais il faut qu'ils reconnaissent qu'il a fait un coup d'État. Il faut qu'ils se repentent de ce qu'il a fait.
Mamadou Dia va être finalement gracié le 28 mars 1974. Roland Collin, que s'est-il passé pour que le président Léopold Sédar Senghor en arrive là? Qu'est-ce qui l'a finalement amené à changer d'avis, à décider ainsi de libérer Mamadou Dia, alors qu'il avait été jusque-là réticent et que l'ancien président du Conseil n'avait toujours pas fait fléchir sa position?
Mais Dia m'avait demandé de faire tenir discrètement une copie de son message à Senghor à Félix Houphouët. J'ai envoyé cette copie, parce que j'en avais gardé une copie, bien sûr, sur instruction de Dia, j'ai envoyé à cher Hamidou Khan, qui était commissaire au plan à l'époque, et avec qui j'ai une relation très amicale. Et cher Hamidou Khan était à Abidjan, il a remis la copie entre les mains d'Houphouët. Et Houphouët avait vraiment une grande estime pour Mamadou Dia. J'y assistais d'ailleurs à des entrevues entre Dia et Houphouët, et je voyais toute cette estime. Houphouët disait, Mamadou Dia est le seul d'entre nous chef d'État qui ait une connaissance économique, on aura besoin de lui. Bon. Et Houphouët est très ému en lisant ce message, et il devait aller à Dakar, parce qu'il y avait une réconciliation entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui traînait depuis des années, la négociation était aboutie, Houphouët devait faire un voyage de réconciliation à Dakar, et recevant ce message, il fait dire à Senghor, d'accord pour la réconciliation, mais je n'irai à Dakar que quand Mamadou Dia ne sera plus en prison. Et Senghor était coincé, ben, effectivement, alors pour que Senghor ne perde pas la face, Houphouët est allé d'abord au Sénégal, mais trois mois après, Mamadou Dia était libre. Et...
Ah, c'est dans ces circonstances qu'il est finalement libéré.
Voilà, voilà.
Quelques temps après sa sortie, Mamadou Dia va obtenir de rencontrer Léopold Sédar Senghor.
Ils se sont rencontrés presque tout de suite, parce qu'au sortir de prison, Dia a eu un geste extraordinaire. Deux jours après, il a demandé à rencontrer Senghor. Senghor était un peu interloqué, et il lui a donné bien sûr rendez-vous. Et un soir, Mamadou Dia va au palais présidentiel, Senghor était là, il s'avance vers Senghor et lui dit « Tu ne m'embrasses plus, Léopold ». Et Senghor était tout à fait interloqué. C'était vraiment le geste de pardon. D'ailleurs, Dia m'avait dit qu'il avait supporté sa captivité aussi en s'armant de tout ce que la dimension spirituelle du musulman mystique qu'il était pouvait lui inspirer de pardon, d'ouverture et tout ça. Et il est allé dans cet esprit auprès de Senghor.
Cette embrassade, cette accolade signifie-t-elle réconciliation? Marque-t-elle le retour de Mamadou Dia sur la scène politique nationale? Après ce rendez-vous surprise, dès sa sortie de prison, quelle va être sa place dans l'environnement politique national? Peut-on parler vraiment de réconciliation? Rien n'est moins sûr. Une nouvelle vie commence en tout cas pour l'ancien président du Conseil de gouvernement. On en parle la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Mamadou Dia. Bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette édition et les précédentes sur le site de RFI à la rubrique podcast. Vous pouvez également les retrouver sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. La réalisation était assurée aujourd'hui par Jérémy Besset. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.